sommes au chapitre 25. Et alors, il me semble que la dernière fois, nous sommes arrivés à ce thème qu'il y a un obstacle particulier pour la naissance de l'enfant qui est attendu à la troisième génération de l'histoire d'Abraham et qui normalement devrait être d'emblée Israël. Je vous reprends le déroulement des Toladot. Abraham est la première génération et la Torah raconte assez abondamment toute l'histoire de la transformation de l'identité Abraham. Vous vous rappelez de cela, hein? Ensuite, il y a difficulté à engendrer Yitzhak, mais finalement Yitzhak est né. Alors, à la troisième génération, on attend Israël. D'après le schéma suivant, qui va nous servir un peu de clé, c'est que il faut un certain nombre de midot, de vertus fondamentales pour reconstruire l'identité du Adam véritable, Atem Kroim Adam. Ça commence à partir d'Abraham. Et il y a succession de ces engendrements dans l'ordre des vertus. Abraham, qui est le tzaddik de la Midat HaChesed, vous vous rappelez, Yitzhak, qui est le tzaddik de la Midat HaDin, et donc on attend le tzaddik de la Midat HaEmet, qui sera l'unité de ces deux midot, et c'est d'emblée Israël. Et ce à quoi on assiste, c'est, semble-t-il, à cette impossibilité, difficulté insurmontable d'engendrer cet enfant. Je crois que c'est là que nous sommes arrivés à la dernière fois. Okay. C'est bien ça. Alors, vous allez reprendre le texte depuis le verset 19, le début de la paracha. Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham oui Yitzhak, indépendamment de ce que nous avons vu à propos de ce verset. Nous avons dans le verset 2 une accumulation d'informations, de renseignements que nous connaissons déjà, mais et qui nous mettent sur la voie de l'explication de cet obstacle que je suis en train de désigner. Pourquoi l'engendrement, l'enfantement d'Israël est différé, empêché, retardé, à la limite, n'est-il pas impossible? Comme je n'ai pas les souvenirs exacts du dernier cours, il est possible que je reprenne certaines analyses, mais enfin, c'est pas grave. Le verset dit ceci: Vaïl Yitzhak ben Arba'im Shana. Et Yitzhak était âgé de 40 ans, Bekartel Rivka bat Betuel Arami, lorsqu'il prit Rivka, fille de Betuel l'araméen, Mipadan Aram, de Padan Aram, Achot Lavan, sœur de Lavan, Arami l'araméen, Loleisha, pour lui et pour femme. Or, tous ces renseignements, nous les connaissons déjà. Et comme vous le savez, c'est un principe de parchanout important, il n'y a jamais aucun détail inutile dans le récit, et donc c'est pour nous enseigner quelque chose de plus. Il y a une accumulation du mot Aram dans ce verset. Et ce que nous allons découvrir immédiatement, c'est que c'est une des causes profondes du fait qu'il nous est raconté au verset suivant: Vayertar Yitzhak et Isaac pria l'Hachem devant Dieu, les Nocharishto, vis-à-vis de sa femme, par rapport à sa femme, qui a Karaï, car elle était stérile. En fait, comme je dis déjà à propos de Sarah, on a l'habitude de traduire ce terme de Rakara par stérile, mais en français c'est un terme impropre, parce que stérile ça veut dire incapable d'enfanter, en fin de compte elle va enfanter. Disons, on va garder le terme dans le sens qu'elle était dans l'impossibilité d'enfanter. Okay? Pourquoi elle était dans l'impossibilité d'enfanter? Et bien c'est ce qui éclaire les indications du verset précédent. Cette stérilité, entre guillemets, a une cause, elle a une raison. Et pour bousculer cet obstacle, on s'aperçoit, et c'est la première fois que c'est dans le récit, qu'il va falloir prier pour que cet enfant naisse. C'est-à-dire, on ne voit pas qu'à la génération précédente, Abraham ou Sarah aient prié pour que Yitzhak naisse, bien que cette naissance était aussi difficile. Or, le terme que la Torah emploie pour dire la prière d'Yitzhak est un terme très particulier. D'ailleurs, il me souvient que j'ai dû vous en parler déjà. Reprenez le verset, c'est le verset 21. Vayertar Yitzhak l'Hashem l'Enochar Ishto. Et Yitzhak pria avec un terme qui signifie que l'objet de la prière est véritablement la demande d'un miracle. Le terme qui est employé, ça signifie fouiller bouleverser les lois de la nature pour que ce qu'on demande puisse être obtenu. Vayater lo Hashem, et Dieu l'a exaucé à lui. Vatar, Rivka Ishto, et Rivka sa femme a conçu. Alors, d'après cette indication que Dieu l'a exaucé à lui, le Midrash restitue le fait que les deux ont prié. C'est clair, du point de vue du raisonnement. Et Yitzhak priait pour les Rivka, les Nochachishto, c'est pas seulement vis-à-vis d'eux, et Rivka priait pour Yitzhak. Alors, il me semble, d'après vos réactions, nous avons déjà vu cela. Donc, alors, je le résume très brièvement. C'est cette identité araméenne qui est derrière l'identité de Rivka, qui est l'empêchement de cette naissance. Et, je ne sais pas si vous l'avez déjà formulé de cette manière, cet enfant qui est espéré risque d'être à la fois totalement tzaddique en tant qu'il est fils d'Isaac, fils d'Abraham, c'est-à-dire l'identité d'Israël qui est en chemin et déjà épurée, mais en même temps totalement rachat à cause de cette identité arabe qui est derrière Rivka. C'est clair jusque-là. Okay? Alors on pourrait formuler la prière d'Isaac de cette manière, quel que soit le risque, Isaac a prié pour que Rivka ait un fils. Je vais ajouter une indication ici, je ne sais pas si je l'ai déjà indiqué, c'est, on va s'apercevoir d'une espèce de complaisance particulière de Isaac vis-à-vis d'Isaü, qui va aller jusqu'au bout du récit. Et alors tout se passe comme si Esaü nous est présenté dans les premières indications des versets comme étant l'enfant pour qui Isaac avait prié, alors que Rivka, elle, va aimer Jacob. On va voir dans le texte immédiat. Alors je pourrais le formuler de cette manière, Isaac est conscient de cette difficulté de l'enfantement à partir de Rivka, de la raison pour laquelle elle est Akara, comme dit le verset, et là on peut peut-être le formuler ainsi, cet enfant est dangereux, mais ça fait rien, qu'il naisse quand même, que Rivka est son fils, bien qu'elle soit chargée de cette hérédité arabe, et moi, Yitzhak, je m'occuperai de lui. Et Yitzhak va faire tout ce qu'il peut pour essayer de cachériser Esaü. Nous verrons dans la suite du récit que Esaü va le tromper. Voilà, c'est clair jusque-là. Je ne pense pas qu'on était allé plus loin. S'il y a une question là-dessus, pour que ce soit bien clair, qu'on puisse démarrer sur la suite. Alors donc, va apparaître une stratégie de la Providence que, pour tourner la difficulté, si j'ose dire, cet enfant qui risquerait d'être simultanément totalement sadique et totalement rachat, eh bien, bousculer la difficulté, vont être deux jumeaux qui vont se partager cette identité impossible. L'un qui sera tzaddique et l'autre qui sera rachat. Et l'issue, qui sera Israël, va résulter du conflit, de la tension, d'un récit très complexe qui va commencer là, entre Jacob et Esaü. L'identité d'Israël se cherche dans une problématique d'identité entre Jacob et Esaü. C'est clair ? Je reviens un peu en arrière parce que je voulais que le sujet soit bien compris. C'est un sujet très difficile que nous allons aborder. Parce que ça se relie au terme de la prédestination. Est-ce que Esaü était destiné à être rachat? Est-ce que Jacob était destiné à être sadique? Ça semble être contradictoire avec l'atmosphère que nous savons de l'enseignement de la Torah. Qu'il n'y a pas de fatalité a priori, de prédestination a priori. Vous comprenez l'importance du problème. Ça va nous occuper aujourd'hui. Et même si c'est nécessaire dans notre cours, de faire sorte de bien comprendre la signification de ce drame qui va commencer ici, entre Jacob et Esaü. C'est que, ce que je voulais rappeler est important. Bon, ça m'échappe maintenant, mais ça me reviendra certainement dans le récit. Dans la suite du récit. Alors, prenons le verset 22. Vaitro tsetsu avanim bekirba. Avant qu'on soit averti qu'il n'y a pas un enfant, mais deux, le texte, on ne sait pas encore qu'il va y avoir deux jumeaux. Le texte nous dit, et les enfants, au pluriel, vaitro tsetsu, s'entrecourraient, se couraient après, se couraient l'un derrière l'autre, bekirba, en son sein, au sein de Rivka. Okay. Batonère, elle dit, Imken, s'il en est ainsi, l'amazé, pourquoi cela, pourquoi celui-ci, Anochi, moi. C'est un verset un peu sibyllin. C'est-à-dire, s'il en est ainsi, pourquoi cela m'arrive? C'est-à-dire, si la prière n'a pas résolu cet obstacle, cette difficulté qui faisait que je ne pouvais pas enfanter, puisque dès le début, dans la grossesse même, au moment où ils sont encore dans l'être embryonnaire, on ne sait pas qu'ils sont plusieurs, il y a un conflit. Alors pourquoi avoir prié? Pourquoi avoir été exaucé? Puisque le problème n'est pas résolu, pourquoi avoir été exaucé? Vatomère, elle dit, Inkel Namazanochi, Vatelet Lidroche et Hachem. Et elle alla rechercher Hachem, c'est-à-dire interroger. Le Midrash explique, elle va au Bedin pour demander qu'est-ce que Hachem lui répond pour cette question. Elle ressent en son sein cet entrecourment, l'hydrothète. Oui, tu as cité le Midrash, je ne sais pas si. Je l'avais cité moi-même, ou si tu l'as pris d'autre part, ouais, c'est. Il y a fait. C'est Bet Midrash Shem Shem, ok?
On dit qu'elle va avoir la maison de Shem Hever, l'école de Shem Hever, qui est la maison de Dieu. Allez, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas directement voir Abraham ou Jean-Marie qui sont aussi bien niveau pour.
Très bien. C'est une bonne question, d'ailleurs. Oh, c'est une question assez vaste. Elle se pose pour la première fois dans le conflit entre. Caïn et Abel, et on se pose la question dans le Midrash, mais qu'est-ce que faisait Adam pendant qu'il y avait ce conflit entre les deux pays? Bon, on va laisser ça un peu en suspens, mais pour le moment, mais j'aurais tendance à répondre que Abraham ne dispose pas d'une réponse qui satisferait Rivka, puisque la cause de ce conflit entre un tzaddik et Rachar vient déjà d'Abraham. On l'a appris du premier verset de la paracha, Abraham holid et Yitzhak. Que le Midrash nous fait lire, Abraham a fait enfanter Yitzhak. Et vous le verrez dans Rashi. De même que, à travers Rashi, de même que d'Abraham sont venus un tzaddik et un rachat, de même Yitzhak viendra un tzaddik et un rachat. Vous le verrez dans Rashi. Mais dans le premier verset. La question qui se pose sur ce Rashi, c'est qu'est-ce que Rashi vient nous enseigner? Alors en fait, du point de vue du Pshat, est-ce qu'il faut comprendre le terme de Toldo dans le sens de histoire ou dans le sens de l'engendrement? Puisque au lieu de nous donner immédiatement le nom des enfants de Yitzhak, la Torah raconte un récit. Et ce n'est qu'à travers ce récit qu'elle donnera plus tard le nom de Jacob et Esaü. Et alors Rashi tranche en disant, bon, il s'agit bien de Toldo dans le sens des engendrements, ça veut dire, c'est bien Jacob et Esaü dont on parle dans cette paracha. C'est clair l'explication? Et alors, à ce propos, les commentateurs de Rashi expliquent, de même que Jacob et Esaü, c'est un tzaddik, un rachat, de même cela vient d'Abraham, qui a eu lui aussi un tzaddik, un rachat, Yitzhak et Ishmael. Et on l'apprend du fait que Rashi a changé l'ordre de la naissance. Rashi aurait dû dire apparemment Esav et Yaakov Amorim Vaparasha, dans l'ordre de la naissance. Mais il dit Yaakov et Esav pour restituer la prééminence du tzaddik devant le rachat. C'est comme ça que les commentateurs de Rashi expliquent. Alors il est possible qu'on puisse rattacher ta question à cela. Maintenant, il faut voir exactement le contexte du Midrash. Peut-être qu'il y a une indication dans le Midrash qui parle aussi d'Abraham. Mais quoi qu'il en soit, c'est la source de la sagesse d'Abraham, de Midrash Shem Shemer. Donc, narratif à l'heure. Adam. Bon, אפשר להסביר ככה, אבל אפשר להסביר ככה, זה לא משתייך ישר לשאלה שלך. כך צריך להבין, שהיה צריך להוציא את הקליפה החיצונית מאברהם, הקליפה הארמית, והקליפה החיצונית יצאה דרך הגר. וכיוון שזה המדרגה החיצונית של הקליפה, אבל הקליפה הפנימית יצאה עם עשיו, מאותו רחם של יעקב. זה מובן.
כן. Ils auraient eu les âmes ou...
Non, ils auraient, ils auraient eu Jacob.
Ils auraient pu
la... C'est-à-dire, voilà, le contenu de la prière de Isaac, c'est que Rivka est un fils. Quel est le fils de Rivka dans ce contexte? C'est Ésaü, l'araméen. Okay. Donc, c'est clair? Le côté Ésaü d'Israël, entre guillemets. Alors, la prière de Rivka est que Isaac ait un fils, qu'il y ait un fils d'Isaac, qui soit comme Isaac, jusqu'au moment où une Rivka, meilleure que moi, pourra lui donner Israël. C'est très parallèle à ce que Sarah a souhaité lorsqu'elle a donné Agar à Abraham. Comment est-ce qu'Abraham représente, ne disparaisse pas du monde jusqu'à ce qu'une autre Sarah, meilleure que moi, puisse lui donner un Isaac. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ce que vous dites, hein? C'est-à-dire que la prière de Rivka est facile à exercer. C'est pourquoi ce n'est pas de sa prière à elle que le texte s'occupe. C'est la prière de Isaac qui était difficile. Isaac a demandé que quel que soit le danger, le risque, il prend sur lui le risque que Rivka ait son fils. Alors que Rivka a demandé, bon, je ne peux pas, et bien que Isaac au moins ait un fils. Est-ce que vous comprenez derrière les mots que j'emploie le sens de ça, okay? Et alors, on voit précisément, je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, que Isaac va être apotropos de Esav, apotropos comme on le traduit.
Hein?
Plus que ça, il va se sentir responsable de Esaü jusqu'au bout. Okay? Hein? Oui, en plus qu'il est le père, disons tuteur, pédagogue, tout ce que vous voulez, apotropos. C'est plus vaste dans l'utilisation hébraïque de ce mot grec. Alors que Rivka, elle aime Jacob comme elle a aimé Isaac. Jacob est plus le fils tzadik de Isaac. Et Esaü est plus le fils rachard de Rivka. Voilà, c'est plus simple comme ça. Hein. Mais c'est pas là-dessus, j'allais dire c'est plus compliqué, mais il faut compliquer les choses pour qu'elles deviennent simples. C'est à la fin que ça deviendra simple.
Est-ce que ça veut dire que si par exemple Isaac n'avait pas prié? Alors, la prière de Rivka aurait pu être entendue?
Elle aurait pu être entendue, nous n'aurons pas
seulement Jacob, mais non pas...
C'est-à-dire que ce récit aurait disparu, parce que c'est...
Comment dire, ouais,
c'est ça, il y aurait eu un Jacob fils d'Isaac, et alors on ne nous aurait pas raconté l'histoire de cette famille, on aurait attendu le temps de la descendance des Hébreux, où il y aurait un Abraham plus fort, un Isaac plus fort, et une Rivka plus...
Je ne comprends pas la nécessité de l'essence de Esav.
Ah bon, mais ça, je vous ai averti qu'on est au début de la préface, de l'avant-propos, avant la première. Ça l'a fait. Et effectivement, on est en train de découvrir qu'il se passe ici quelque chose d'inattendu, exceptionnel. On va nous parler de la naissance d'un enfant impossible à naître et qui s'appelle a priori Israël. Est-ce que c'est clair? Voilà, ça me revient grâce à ta question, ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire, nous avons là une identité qui nous montre de façon paroxysme, à la limite, l'identité humaine comme impossible. Les philosophes étudient cette question dans la problématique de la philosophie. Je vais vous donner une expression qui me vient de Yankelevitch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du philosophe Yankelevitch, qui est un grand philosophe juif, complètement ignorant de la Torah, mais très très juif, d'autre part, du point de vue sentiment. Il était un grand philosophe. Et alors, il appelait l'identité humaine un impossible nécessaire. Ça veut dire, en langage philosophique, que pour l'intelligence, pour la raison, l'homme ne devrait pas exister. C'est un être impossible, parce que c'est un être contradictoire. Il rassemble en lui toutes les contradictions possibles pour l'intelligence. Je crois que j'ai parlé de ça la dernière fois. Okay. Et pourtant, il existe nécessairement puisqu'il est là. Il ne peut pas ne pas exister, et pourtant, il ne devrait pas exister. Bon. Et alors là, dans les termes de la Torah, c'est la problématique tzadik rachar. Comment un être peut être à la fois tzadik et rachar? Et c'est, dans certains ramazim des rabbins, on appelle ça le tsar. Tsar Beroyev. Comme Raman, Tzadé Rech, Tzadik Rachar, Tsar, Tsarot, c'est le mot. Et alors, ce que je vous avais dit, c'est ce que je voulais rappeler, c'est que d'une certaine manière, c'est en quoi que ce soit, à quelque niveau que ce soit, l'identité de tout homme, d'être cette contradiction absolue de un Jacob et un Esaü à la fois. C'est-à-dire le Yetzer Tov, le Yetzer Ra. Chacun a cette problématique-là. Mais on le voit à la limite dans l'identité d'Israël, c'est ce qui rencontre cet obstacle. Normalement, cet être, l'homme, et c'est Israël qui est l'homme cristallisé, ne devrait pas pouvoir exister dans la nature. Plus tard, nous reviendrons à rattacher cela à des enseignements plus généraux de la tradition, c'est que, d'une certaine manière, nous sommes de ce monde, mais nous sommes d'ailleurs. Je parle d'Israël. Bon, c'est un thème trop difficile pour l'aborder maintenant. Et c'est exprimé une première fois par Abraham lui-même, à propos d'un récit qui apparemment n'a rien à voir avec un problème d'identité. C'est quand il est en discussion avec les Bnefet pour l'achat de la caverne de Marpella, et qu'il leur dit « Ger vetosha vanochi imachem » « Je suis à la fois étranger et séjournant avec vous. » Suivant le pshat du récit, c'est que il y a impossibilité de trouver une tombe pour enterrer Sarah. Parce que, en tant que Toshav, Abraham a droit à un caveau. Mais en tant que Ger, il n'a pas droit à ce caveau. Alors il faut finalement obtenir un caveau particulier où on enterrait les Gerim, et c'était un caveau qui appartenait à un Toshav. C'est le caveau de Ephron, Ben Tsoar. Okay. Et vous savez ce qu'Agamara dit, dans ce caveau était enterré Adam et Chava. Vous vous rappelez de ce que vous avez dit? Ça veut dire qu'il y a une ambiguïté, une contradiction, une ambivalence, je ne sais pas comment on dit, dans l'identité d'Israël Abraham, il est à la fois étranger et chez lui. Bon, c'est un sujet très vaste. Je vais simplement l'indiquer comment, dans une des slichot de Judas Lévi a repris cette expression en disant que Ger Toshav Ani Algav Adama. C'est-à-dire, comme un étranger séjournant, je suis sur la surface de la terre. C'est-à-dire, c'est le sentiment existentiel de l'homme en général, mais qui est cristallisé en Israël, et d'un certain côté, nous sommes de ce monde, mais d'un autre côté, nous ne sommes pas de ce monde. Pour savoir pourquoi je vais parler de ça, mais vous voyez à quoi ça fait allusion. Okay, nous avons une Torah qui n'est pas de la terre. Comment on l'appelle? Torah Min HaShamayim. Il faut prendre ça à pshat. Okay, Torah Min HaShamayim. Et la Torah Min HaShamayim ne concerne qu'Israël. D'une certaine manière, nous sommes à la Haaretz, les Min HaShamayim. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors que les goyim sont appelés Mishpechot HaAdama, ou Mot HaOlam. Vous voyez ce décalage d'identité. Okay, eux font partie de ce monde de la nature et que ça. Et alors le grand paradoxe, c'est que les goyim ne savent pas adorer le Dieu du ciel et de la terre, ils n'adorent que le Dieu du ciel. Ça, c'est le grand paradoxe. Vous l'avez compris, là.
On touche au paradoxe.
C'est-à-dire, il faut être du ciel pour comprendre la terre. Ceux qui sont de la terre ne comprennent rien du tout.
Okay. On touche au paradoxe chez Jacob et Esaü.
Oui. Et, par exemple, je crois que les souvenirs du cours de la dernière fois, il y a 15 jours, au fond, me reviennent. On voit que, je crois que je vous ai déjà parlé de tout ça, mais ça fait rien, il vaut mieux revenir. La différence entre Esav et Yaakov est indiquée dans les textes de la Kabbalah, dans l'ordre de la même différence entre Adam Harishon et le Nachash. Est-ce que je vous ai parlé de ça?
Non.
Vous avez par exemple la Zmira qu'on chante le samedi soir. Amar Hashem le Yaakov, Altira Abdi Yaakov. Vous connaissez? Il y a une phrase qui est un verset, tous ces versets d'ailleurs, c'est une très jolie Zmira, qui lo nahash be Yaakov. Il n'y a pas de nahash en Yaakov. Et le Midrash dit, il y avait un nahash tatoué sur la hanche d'Ésaü. Le nahash, il est chez Ésaü, pas chez Jacob. Il me semble que je vous ai parlé de ça.
Ah, vous savez qu'il y avait un nahash?
Alors, qui c'était ce nahash? C'est un être bizarre. Quand le Midrash parle du nahash, eh bien, il en parle comme si c'était un prophète. Dieu lui parle dans le pshat. Hein? Et puis, c'est un être qui est devenu Nahash. Le Midrash explique qu'il se tenait debout, il avait les rapports de type homme et femme comme l'homme et femme, il parlait et Dieu lui parle. Qu'est-ce que c'est, cet être bizarre-là? En punition, il est devenu Nahash. Il a perdu ses bras, ses jambes, peu importe. Et alors, ça veut dire c'est, à la limite, comme ce que serait un homme de nature. Est-ce que vous avez compris cela? et un homme qui ne se considérait que comme un être de nature, comme les autres animaux. Les autres animaux dans le sens d'être vivant, biologiquement. Et alors on voit qu'il y a cette compétition entre le Nahash et Adam Harishon. C'est la même compétition qu'on va retrouver entre Jacob et Ésaü. Ils ont la même matrice, l'un est voué à Olam Haba, et l'autre n'est voué qu'à Olam Haza. L'un c'est Jacob, l'autre c'est Ésaü. Ils se ressemblent comme des frères, comme dirait Alfred de Musset. Et ils sont jumeaux, et pourtant ils ont une nature radicalement différente. Le Nahash de Yaakov et le Nahash de Chaesa. C'est-à-dire cette distinction entre le Nahash de la Genève et Adam Harishon, on la retrouve entre Jacob et Ésaü. Bon, j'ai un peu beaucoup schématisé, mais c'est une idée de ce que ça représente. Okay, un homme qui ne se connaît qu'en tant qu'être de nature à la manière des animaux, et qui a donc un problème. Et qu'est-ce que ça signifie pour lui d'avoir une neshama, okay? Il fonctionne comme un être de nature. Dans l'histoire des civilisations, ça s'appelle le païen, tout simplement. Et puis, ce même homme, mais relié à la Torah Minashamayim, avec en perspective un Olam Haba qui n'a rien à voir avec ce Olam Haza. Et vous reverrez plus en détail, si on suit cette ligne de lecture, que c'est tout à fait la physionomie, le profil d'identité des Aïs. Quand il dit Inani Holech Lamut Lamali Bukhora. Pourquoi ? Comment il va donner sa prérogative d'Israël à Jacob en disant, puisque je vais à la mort, à quoi me sert l'aînesse ? Vous suivez ? On va voir plus de ça, on va fouiller plus de ça par la suite. C'est-à-dire, c'est un être qui finalement ne se connaît comme l'être du monde extérieur de ce monde-ci. Il est cependant doué d'une neshama, mais ça lui fait problème. Et finalement, il y renonce. Alors il perd. Mais c'est exactement le drame du païen. Et a priori, Jacob et Ésaü, c'est le même être. Eh bien, Ésaü devient Nahash, alors que Jacob devient Israël. On peut le voir. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre Nahash et Adam Rishon, okay? Le Nahash, et la Torah dit, « Le Nahash aya arum mikol chayat asadé. » Il est le plus arum de tous les êtres vivants du champ. On va retrouver ce terme de sadé avec Hesa, Ish sadé. Et arum, c'est la chokma au niveau de la nature. Chokma, c'est spirituel. Orma, c'est purement naturel. Et quand, par exemple, dans la suite du texte, après la substitution de bénédiction, Ésaü vient et demande qu'est-ce qui est arrivé, qui a donné la bénédiction à l'autre. Alors Isaac lui répond, Ba achicha be'orma. Ton frère est venu avec ruse. Rashi intervient et dit be'orma, avec sagesse. Ça veut dire que la capacité de Jacob, c'est qu'il est capable des tendances d'Ésaü. Hein? Mais dans le bien. Voilà. C'est la différence entre Ishtab et Ishtabé qu'on va voir tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi on a pénétré là-dedans, mais j'espère que l'idée est suffisamment claire. C'est que tout homme porte en lui-même cette problématique d'identité d'être ou tzadik ou rachar. Et je ne sais pas si vous avez étudié le Sefer Tanya. Vous avez étudié le Tanya ? Non. Bon, le Sefer Tanya commence par citer cette braïta. Au moment où Neshama est donnée au monde, alors on lui dit soit tzadik et ne soit pas racha. Al-Tehit tzadik, al-Tehit racha. Et alors c'est cela. Ça veut dire qu'il y a ces deux possibilités. Alors je reviens à ce que je disais. C'est qu'est-ce qui se passe entre le Nahash et Adam Harishon. Je vais employer un vocabulaire simplifié. Le Nahash apparaît comme l'être vivant le plus évolué de tous les êtres vivants, Mikol Hayat HaSadeh, qui aurait pu être Adam si on avait eu le courage. Et puis, il est une fin de série. Et voilà que Dieu crée, parallèle à lui, un Adam qui va être le point de départ, d'où le Nahash n'arrive pas à arriver. Et alors, il y a un relais qui se passe entre ces deux lignées, et le Nahash s'arrange pour empoisonner l'histoire de Adam. Zohar Matan Nahash. Vous suivez ça, okay? Et après, le Nahash retombe. Je vais vous envoyer une image mathématique. Vous savez ce que c'est que l'asymptote en mathématiques, okay? C'est parce que c'est une courbe qui s'approche le plus possible jusqu'à l'infini d'une coordonnée qui n'arrive jamais à l'atteindre. On appelle ça une asymptote. Alors imaginez une coordonnée. À partir de là, Adama, le Nahash tend vers l'identité Adam. Mais il n'est que l'asymptote et au haut de l'ellipse. Là, Adam commence de l'autre côté de la coordonnée, mais au même niveau, et commence l'histoire. Alors là, il se passe un relais, et ensuite on arrache le tombeau. Vous avez compris ? Vous voyez, c'est clair ? Et alors, vous verrez qu'on retrouvera plus tard la même notion dans ce qui se passe entre Jacob et Laban. Lorsque Jacob va quitter Laban, Laban lui dit « Nihashti vashem brachani biralé ». Nihashti, on traduit le pshat, j'ai deviné. Mais d'après l'explication que je vous cite, Laban semble dire à Jacob, je suis devenu Nahash et Dieu m'avait béni grâce à toi. Et tu t'en vas, tu me quittes. Oui, le même conflit entre Laban et Jacob. Est-ce que c'est clair? Bon, ce sera plus clair par la suite. Vous retrouverez ce terme de Nahash qui Nahash jusqu'à Moni avec Joseph. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais citer, c'est cela. C'est que il y a effectivement une impossibilité de faire exister cet être qui s'appelle l'homme, et la Torah nous le dévoile dans l'histoire de cette naissance. C'est du salut. Alors on continue. Ken, je voudrais aborder tout de suite aujourd'hui ce problème de la prédestination dont je vais parler. Ken. Alors je veux dire, c'est tout le problème de la relation entre animal et l'homme. D'après la culture générale, l'homme serait un animal devenu homme. D'après l'enseignement de la Torah, l'animal c'est un être vivant qui n'a pas réussi à devenir homme. C'est la merde. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon, il faudrait des heures d'études, mais si la formule est simple, c'est-à-dire si vous récapitulez toutes les données de la préhistoire, d'une part, et toutes les données de l'embryologie d'autre part, alors il apparaît une espèce de parallèle. Okay? C'est que, d'après la vision matérialiste, évolutionniste, vous avez des espèces qui deviennent de plus en plus évoluées, l'une menant à une autre plus évoluée, et qu'à l'origine, et peu importe si c'est un crabe, un crocodile ou un singe, une espèce évoluée aurait donné l'homme. C'est ça l'évolutionnisme en général. Je schématise, mais c'est clair, quand même. Alors que le récit de la Torah est tout à fait différent. Okay. Ça veut dire à partir de la même cellule originelle, qui vient de la Adama, alors des tentatives différentes ont mené aux différents niveaux des animaux. Et une a réussi à être l'homme. C'est Adam, Mina Adama. Et donc les autres, c'est ce Adam, Mina Adama, qui n'a pas réussi à être Adam. Ça veut dire les animaux sont des êtres vivants qui n'ont pas eu le courage de devenir des hommes. Et pas l'inverse, qu'un homme, c'est un animal devenu homme. Réfléchissez bien à ça. Est-ce que c'est clair? Alors c'est pourquoi on retrouve dans l'embryologie tous ces stades. Vous savez, si vous avez fait des études de biologie, dans l'embryon, on voit tous ces stades. Et puis alors, qu'est-ce que c'est qu'un petit homme? Eh bien, c'est un être vivant qui a le courage d'arriver jusque-là, homme. Et d'ailleurs, cette distinction, les animaux, l'homme, on la retrouve à un autre niveau dans la distinction, l'égoïme, Israël. Est-ce que c'est clair? Israël, c'est pas un goï qui est devenu Israël. L'égoïme sont des Israëls qui n'ont pas eu le courage d'arriver à être Israël. L'Israël potentiel. Puisque c'est le même Dieu qui a le même projet pour créer l'homme. Alors il y a des lignées humaines qui n'ont pas eu le courage d'arriver à être vraiment homme. Ça s'appelle Nahash. Il y en a une qui a eu le courage, c'est Israël. Est-ce que vous avez compris? Alors on peut rejoindre Israël. Et la preuve que c'est comme ça, c'est qu'on peut rejoindre Israël. Est-ce que c'est clair? Parce que si c'était autrement, on ne pourrait pas rejoindre Israël. C'était une espèce différente. Ça vous fait plaisir? Non. Non, il
non,
c'est un machin avec un machin. Il y a un machin. Bon, est-ce que je pense que ça doit être très obscur tout ce qu'on a dit là jusque-là, mais c'est pas grave, on retrouvera tout ça en détail. Bon, c'est clair? Bien fait. Alors, alors on continue. Voyomer Hachem, voilà la réponse de Hachem à Rivka. Voyomer Hachem là, Shnei Goyim Bevitneh. Deux nations sont en tant que saints. Ou Shnei Leomim et deux peuples. Mais Mehaïr et Paredou. À partir de tes entrailles, le sang, c'est dès la naissance, se sépareront. Ou l'homme, il est homme et mat, et l'un, un des peuples triomphera de l'autre peuple. Ça veut dire qu'un peuple ne peut s'affirmer qu'en triomphant de l'autre. Ou l'homme, il est homme et mat. Verra, via avotzaï. Et le nombreux servira le plus jeune. C'est un texte pas simple. Il faudra du temps pour évaluer ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rav, Yavod, Zahir. C'est pas au même niveau les termes ici. Rav, c'est nombreux, Zahir, c'est jeune. Donc, je continue à revenir sur cette indication qui va être le centre de notre étude. Vaim Lehu Yamea la Ledet. Et ces jours fut emplis pour enfantement. Vein est Tomim Levitna. Et voici des jumeaux étaient en son sein. Remarquez que c'est un mot exceptionnel pour dire les jumeaux. Normalement, il devrait y avoir théomim. Il manque un al. Il y a une unité qui manque. On retrouvera le problème de ces jumeaux dans la descendance de Judas. Avec qui?
Avec Benjamin.
C'est ça? Comment ils s'appellent les deux jumeaux?
Peretz
et.
L'autre aussi, c'est un.
Zéla. Il y a fait.
Pourquoi est-ce qu'il y a un blanc quand il répond Bayomer, Hachem, et on voit dans le. Chez moi, c'est comme ça, Bayomer Hachem, il y a un blanc, l'Hachem et Goyim.
Non, c'est dans ton livre.
Ah bon.
C'est de la typographie. Et pas aussi.
On s'est pensé que j'ai mis un temps à lui répondre.
Il y a quelque chose d'étonnant quand on parle de ça, de ça. On voit que le serpent, à la fin des temps, il pourra se racheter, alors que ça, vous pouvez l'éliminer, c'est quelque chose d'éliminant.
On verra plus tard. On verra
plus tard. On n'y plus si je parle, il va faire quelque chose.
Non, on verra plus tard. Je peux te répondre tout de suite, pour que tu le gardes en mémoire. C'est-à-dire, Ishmael peut faire tout, va être sadique en restant Ishmael, c'est ça qu'on a appris. Okay. Tandis que lorsque Esav fait tchouva, il devient Israël, il disparaît comme Esav. Esav, sadique, ça n'existe pas. Et ça, ça dit que c'est Israël. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est dans le sens. Et d'ailleurs, le Midrash l'a dit pour le Hazir. Le Hazir, qui est le symbole d'Aïssa, vous savez cela.
Oui,
oui. C'est comme ça qu'ils font leur salut, ils appellent ça le port-salut. Le Hazir s'appelle Hazir parce que Atid l'Hazir, le même chose. Pour ça, notre Midrash, on verra plus tard. Tu vois la différence, c'est le temps. C'est un des Midrash, c'est le Hazir, mais ce que je veux citer, c'est qu'effectivement, c'est l'emblème des légions romaines. Lorsqu'elles ont détruit le temple, c'était un sanglier. Je ne sais pas si vous avez cela. Si? Et ils avaient comme emblème, quand ils sont rentrés dans Jérusalem, ça veut dire qu'ils arrivent avec leur carte d'identité du Midrash. En tout cas, c'est très frappant à quel point ils aiment ça. C'est marrant. Vous avez marqué. C'est quoi les humains dans l'histoire?
On
En quoi la notion de tikkun, ça ne peut pas être une institution qui est... En quoi la notion de tikkun,
ça peut être... Tikkun.
Non, non, de... En fait, c'est pas d'être sadique.
Tikkun.
Ça ne peut pas être une notion qui est, entre guillemets, sadienne, c'est ça. Il y a, entre guillemets, une notion d'État, sans qu'elle soit une notion d'Israël.
C'est-à-dire, il ne faut pas quitter les coordonnées données du texte. Hein. Qui c'est Esav? C'est quelqu'un qui aurait pu être Israël et qui se prétend Israël tout en n'étant pas Israël. S'il fait tchouva, il devient Israël, il disparaît en tant qu'Esav. Enfin, je veux dire en clair, pour changer de régime, en changeant de vocabulaire. Il y a dans la tradition juive une conception possible d'un musulman tzaddik quand il fait tchouva vis-à-vis d'Israël. Ça, on l'a appris. Mais il ne peut pas y avoir un chrétien tzaddik dans le sens total. S'il fait tchouva vis-à-vis d'Israël, il devient Israël. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux Israël, tout simplement.
C'est
rare.
C'est-à-dire qu'il est...
Non, pas forcément. C'est-à-dire... Ça lui arrive aussi, d'ailleurs. Très rarement, mais ça lui arrive. Je veux dire, bon, on a débordé sur notre problème, mais je voudrais faire une mise au point. Le grand problème de l'Église aujourd'hui, des Églises en général, mais c'est surtout avec Rome qu'on a un problème historique, d'ailleurs avec l'Église catholique et romaine, okay, c'est que pendant 2000 ans, ils se sont crus être Israël, ils se sont présentés comme Israël. Subitement, ils découvrent que c'est les Juifs qui sont Israël. Cette découverte, ils sont en train de la faire, mais elle commence déjà à émerger chez certaines élites, chez eux. Okay, c'est clair. Or, il est bien évident, pour eux ça leur reste un mystère, il ne peut pas y avoir deux Israël. Pendant 2000 ans, ils étaient dans ce délire, parce que pour une conscience historique saine, c'était du délire que Rome s'est prise pour Jérusalem pendant 2000 ans. Donc ils sont en train de sortir de ce délire. À ce moment-là, le drame, la problématique qu'il y a chez eux, c'est la suivante. C'est que certains d'entre eux ont le courage de régulariser. Ils deviennent Israël, car ils disparaissent en tant que Esav, en tant que Rome, en tant que Edom. Maintenant, la grande majorité des chrétiens n'a pas du tout comme destinée de devenir juif. Le problème est un problème difficile. Qu'est-ce que ça sera la régularisation de cette rivalité entre la chrétienté et Israël? C'est un autre problème. Je pourrais vous formuler l'hypothèse qui est la mienne, c'est qu'ils finiront par se reconnaître comme une diaspora d'Israël. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, il y avait un faux problème d'une fausse rivalité entre deux Israël. En réalité, ce qu'il y a eu pendant 2000 ans, c'est une rivalité entre deux diasporas d'Israël. Puis ça commence au Khorban du Beit Sheni, cette histoire. Il y a une diaspora d'Israël, la juive, qui restait fidèle au passé hébraïque, c'est les juifs, et une diaspora d'Israël qui a trahi, qui est devenue gréco-romaine, c'est l'Église. Est-ce que c'est clair? Alors là, il y a un tikkun possible pour eux de devenir diaspora d'Israël. À ce moment-là, le problème difficile, ce sera pour la diaspora juive, qui sera engloutie dans la diaspora chrétienne. Est-ce que c'est clair? Oui.
C'est clair,
ça
risque de faire repartir.
De faire repartir qui? Les juifs ou les chrétiens?
Qu'il
s'identifie
comme diaspora, donc
les juifs. Mais je crois que c'est déjà le cas. Regardez, on va faire un petit peu de Haggadah de Pessah. Bon, on est ici en laboratoire. Je veux dire, c'est pas du tout aussi schématique carré pour n'importe qui que vous connaissez. Ce sont des tendances que j'essaye de définir en forme de dynamique. Okay. Comment une des mishnayot de Haggadah de Pessah commence? Mitechila. Ob de Avoda Zara ayu avotenu. Ve achab kerevanu amakom la avodatu. C'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Et maintenant, amakom, on appelle Dieu makom dans ce texte, et on verra pourquoi, nous a approchés de sa avoda à lui. Et on cite un verset de Yoshua, Shenehema, va yomer Yoshua et la âme. Rappelez-moi le verset, quelqu'un a une agada ici. Vayomer, ta vie à la tête. Vayomer, je serai la âme. Oui. On veut dire à votre adorat, je crois. Voilà. Ok. Quoi, ma Hachem, le clé Israël? Be'ever anaha, yashua votechem me'olam. Tera. Avi Abraham va bien à Chor, va y avoir Elohim Achel. C'est clair, je traduis. Ouais.